Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle chronique de l'Alep. Je suis toujours avec Muriel et Marion qui sont là aujourd'hui.
Salut. Bonjour. Corentin.
Salut.
La semaine dernière, nous avons vu les chants des oiseaux qui étaient magnifiques. Cette semaine, de quoi nous allons parler?
Alors bonjour à tous. Cette semaine, on va parler plutôt de nidification. En fait, on va parler du but ultime qui vient avec le printemps, la reproduction ou plutôt nidification. Alors qu'est-ce que c'est, Marion, la nidification?
Alors si on prend la définition, la nidification, c'est le fait de construire un nid pour accueillir sa progéniture. C'est vraiment pour accueillir.
Du coup, ça veut dire qu'ils ne font pas un nid toute l'année pour y dormir?
Eh oui. Alors, on va directement casser les idées reçues. Les nids des oiseaux, ce ne sont pas leur maison. Ce n'est pas là qu'ils vont dormir ou nécessairement revenir. C'est juste un refuge pour qu'ils puissent couver leurs œufs et élever leurs petits jusqu'à ce qu'ils soient capables de s'occuper d'eux tout seuls. Quand il n'y a pas de petits, ils ont des loges, des branches d'arbres où ils vont aller se poser pour dormir ou se protéger. En fait, ça dépend un peu des espèces, mais la plupart sont souvent SDF et préfèrent les nuits à la belle étoile, quoi.
D'accord. Alors du coup, est-ce que tous les oiseaux font leur nid au printemps?
Alors c'est un peu plus complexe. Au fil des émissions, on l'a vu, la nature, elle facilite pas trop la tâche parce que les choses varient toujours selon les espèces. Mais au printemps, une grande majorité des oiseaux vont se reproduire et faire ce qu'on appelle une couvée. Certaines espèces vont même en faire plusieurs. Tout va dépendre de là où ça se passe et si l'environnement est plus ou moins favorable ou si le climat ne va pas contraindre les espèces à se reproduire. Les chances de réussir d'une couvée, elles vont en fait diminuer plus la saison avance. Plus on se rapproche de l'automne, plus ça va être compliqué et la couvée a moins de chances de réussir. Dans les villes, par exemple, les pigeons, vu qu'ils trouvent beaucoup de nourriture, ils vont arriver à faire 4, voire parfois 5 couvées dans l'année, quoi. La huppe, qui est un oiseau migrateur, fait généralement 2 couvées dans le sud de la France, dans le même nid. Donc elle est célèbre pour ça, parce que le nid est facilement repérable à la 2e couvée, à l'odeur. Ça sent pas très très bon, parce qu'il y a déjà eu une couvée, les oisillons ont fait des fientes un peu partout, et donc du coup, la 2e couvée, il y a encore des oisillons, et donc il y a cette odeur un peu forte qui en ressort. Et ce qui est marrant, c'est que les premiers oisillons de la première couvée vont aider à l'élevage de la seconde couvée.
Ah, ok. Donc c'est intergénérationnel comme élevage.
C'est ça.
Ok. Du coup, comment ça se passe exactement, la nidification et la ponte?
Alors, si tu te souviens bien, quand on a parlé de migration, on a parlé de photopériode. Donc le fait que les jours soient plus ou moins longs. Donc pour les oiseaux migrateurs, cette photopériode, ça va être un peu le top départ de la reproduction. Les mâles vont chercher le territoire, comme tu disais, un territoire parfait pour attirer une femelle, et se mettre à chanter parfois sans cesse. Par exemple, le rossignol arrête pas de chanter, que ce soit le jour ou la nuit. Son but, c'est vraiment de se reproduire durant ce laps de temps.
Ok.
Et après, c'est souvent aussi, et surtout, la nourriture qui va conditionner le meilleur moment. Parce que la femelle va avoir besoin de beaucoup de force pour pondre, mais surtout les oisillons vont être de sacrés gloutons qui grossissent très très vite. Donc pour les merles, par exemple, qui aiment bien manger des vers, ils vont se reproduire plus tôt que les mésanges qui, elles, affectionnent les chenilles, et les chenilles arrivant plus tard que les vers, parce que
avec
les vers,
la température.
Plus facilement, avec la température, exactement. Donc elles vont attendre qu'il y ait des chenilles pour pouvoir se reproduire. Et après, il y a des espèces qui ont d'autres stratégies. La chouette hulotte se reproduit beaucoup plus tôt dans l'année, mais c'est pas encore le printemps même. Et elle mise pas sur le nombre de proies, mais plus sur la facilité à chasser. En effet, elle se reproduit quand l'herbe repousse, donc quand il n'y a pas beaucoup d'herbe, et que les rongeurs sont plus faciles à repérer que quand l'herbe est haute et dense. Voilà.
D'accord. Et du coup, biologiquement, pour la reproduction, est-ce que ça se passe comme nous ? Enfin, ils sont quand même, on est des mammifères, c'est des oiseaux. Quelle est la différence ?
Ah bah, c'est pas du tout pareil. Ils n'ont pas, alors pour la plupart des oiseaux, ils n'ont pas de partie génitale externe. C'est pour ça que c'est souvent difficile, sauf grâce à certaines espèces qui ont des couleurs différentes, mais de faire la différence entre mâle et femelle. La plupart ont ce qu'on appelle un cloaque. Et comme par exemple les poules qu'on peut avoir dans notre poulailler, hein, ont un cloaque. Et c'est en frottant les cloaques que le mâle transfère sa semence à la femelle. Alors D'accord. Les ornithologues, ils appellent ça le baiser cloacal, parce que c'est un peu ça, à ça que ça ressemble, quoi, à un baiser.
Un bisou des fesses.
C'est vraiment une généralité ?
Alors c'est pas réellement une généralité. Par exemple, les canards ont ce qu'on peut appeler un pénis. D'ailleurs, il y a une petite anecdote sur un canard. Sur un canard un peu particulier, qui est un Eris mature qu'on retrouve bien sûr pas en France. Cet Eris mature, il a un pénis qui est très très grand, très très long, et c'est le seul à utiliser ce pénis pour se reproduire. C'est-à-dire qu'il va séduire les femelles par rapport à la longueur de son pénis déjà. Et en plus, son pénis a une particularité, c'est que au bout, il y a des sortes de poils qui vont un peu faire penser à ce qu'on peut appeler une brosse pour les toilettes, par exemple. Et cette brosse va permettre d'enlever la semence des autres mâles qui auraient pu passer sur la femelle. Donc c'est vraiment une stratégie génétique là pour être sûr d'être le père et d'être le mâle qui va réussir à féconder. D'où la taille du pénis pour aller le plus loin possible, enlever la semence des autres mâles.
D'accord, c'est simplement une stratégie de mâle pour être sûr d'être le père, quoi.
Exactement.
C'est vrai, c'est quand même vraiment étonnant, puisque le seul qui a un pénis, en plus, est particulier. Et je sais même pas si ça se retrouve chez les autres animaux, ça, cette idée de nettoyer un peu le passage qu'il y a eu avant.
Si, ça se retrouve chez certains mammifères aussi. Ouais. Mais peut-être qu'on pourra faire une émission spéciale consacrée aux différentes formes de stratégies de reproduction.
Ah, je croyais de pénis.
Ce serait un peu trop, peut-être. D'accord. L'évolution a fait ses choix. C'est quand même assez étonnant que là on aurait peut-être besoin de Darwin pour nous expliquer pourquoi l'évolution a fait ce choix-là pour ce canard. Après, au niveau du nid, est-ce qu'ils font tous le même genre de nid ou pas ?
Ah ben là aussi, c'est un peu compliqué. Il y a une sacrée diversité des nids. Il y en a vraiment de toutes sortes, de toutes tailles, et on peut en retrouver un peu partout en fait. La plupart du temps, il y a quand même quelque chose de commun, c'est que le nid, ça va correspondre à une cuvette qui va permettre d'accueillir les œufs et permettre à la femelle et parfois au mâle aussi de venir couver les œufs le temps qu'il faut. Mais il y en a certains qui vont nicher au sol en se camouflant dans la végétation, souvent des animaux au plumage de camouflage comme la bécasse des bois ou le busard par exemple. D'autres comme le martin pêcheur vont creuser des galeries dans les berges. Il y en a encore qui utilisent les cavités naturelles dans les troncs ou qui ont été creusées par les pics. Par exemple, certaines chouettes, mésanges ou citelles vont utiliser ces cavités. La citelle, elle a la particularité en fait de fabriquer en plus un torchis qu'elle va mettre autour du trou pour ajuster l'entrée vraiment à sa taille à elle et limiter comme ça la prédation, quoi.
D'où son nom, citelle torche-peau.
Exactement. Et les hirondelles des fenêtres, par exemple, dont c'est les nids qu'on voit le plus souvent, elles font des nids en dur que l'on voit sur nos toits, enfin en dessous de nos toits, de nos fenêtres, voilà.
Ouais, d'accord. Du coup, est-ce qu'ils font tous un... Enfin non, ils ne font pas tous un nid. Il y en a qui utilisent des nids ou des trous abandonnés. Ça doit quand même être un sacré boulot et prendre du temps et de l'énergie de faire ce genre de nid.
Oui, c'est vraiment un gros travail. Alors déjà, il faut trouver l'endroit parfait où on ne risque pas d'avoir de prédateurs, qu'on ne risque pas d'être dérangé, où on peut trouver de la nourriture. Ensuite, il faut fabriquer le nid. Et ça, c'est un gros, gros travail. C'est pour ça qu'en ce moment, on voit beaucoup d'oiseaux faire des allers-retours avec des branches dans le bec, qui n'arrêtent pas toute la journée, ils font ça. On a compté chez le pinson, par exemple, il fait entre 1300 et 1500 allers-retours pour aller chercher des brindilles et construire son nid, quoi.
D'accord.
pour les ornithologues, c'est toujours un super moment de voir ces oiseaux qui font avec dans leur bec des brindilles, parce que c'est évidemment le signe qu'il va y avoir une reproduction. Et ça nous permet de, bah, de suivre l'évolution des espèces sans être obligé de repérer le nid exactement où il est et de du coup déranger les oiseaux, quoi. Après, c'est toujours selon les espèces. Certains sont moins consciencieux. Chez les troglodytes, le mâle fabrique plusieurs ébauches de nids et il va les présenter, genre comme quand nous, on va visiter plusieurs maisons. Voilà. Lui, il présente différents nids, différents emplacements.
C'est qui l'agent immobilier, alors là? Il n'y a pas une espèce spécialisée là-dedans?
Ah non, du coup, il ne se partage peut-être pas qu'on trop l'a... en espèces.
Peut-être qu'on ne l'a pas encore trouvé. Juste.
Voilà, c'est ça. On ne sait pas tout sur la nature. Il faut trouver. Et du coup, voilà, c'est la femelle qui va dire, bah ici, je trouve que c'est le mieux placé, c'est l'endroit où il va y avoir le plus de nourriture, le plus de tranquillité par rapport aux hommes, mais surtout par rapport aux prédateurs.
D'accord. Et je crois qu'il y a une espèce un peu spéciale qui non seulement fait pas de nid, mais en plus se soucie même pas, enfin confie l'élevage de ses jeunes à quelqu'un d'autre.
Oui. Alors cette espèce, on la connaît assez bien et surtout on l'entend. On la voit rarement, mais on l'entend très bien. Donc c'est le coucou, donc on a passé le chant l'autre jour. Et elle fait, c'est un oiseau qui va faire ses œufs, un œuf, dans le nid de petits passereaux comme le rouge-gorge ou les mésanges. Et donc rester aux alentours et laisser l'élevage de son jeune à ses passereaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le coucou, quand il naît, il est beaucoup plus gros que les oisillons de rouge-gorge ou de mésange, et qu'il va essayer de prendre toute la place, et même il prend toute la place et il va jeter par-dessus bord les autres oisillons pour être le seul à être nourri. Mais quand même...
Les autres oisillons qui ne savent pas encore voler, du coup.
Qui ne savent pas voler, donc ils viennent de sortir de l'œuf.
Et c'est souvent même, en fait, lui, il éclot avant, et dès qu'il éclot, c'est instinctif, c'est impressionnant. Il y a des caméras qui ont filmé ça. Enfin, il sort à peine de l'œuf, il met toute son énergie à sortir les œufs du nid. Alors que c'est pas évident. Enfin, faut le remonter le long de la paroi du nid. Enfin, c'est assez impressionnant. Il arrête pas tant qu'il y a des œufs dans le nid, quoi.
D'accord. Surprenant. Ouais.
Ouais. Et puis la mère, donc le coucou. Si on regarde un peu à quoi ressemble l'animal, elle est striée un peu comme l'épervier. Et en fait, c'est une stratégie pour quand elle regarde quand même comment se passe l'élevage de ses jeunes. Et donc, elle va passer et faire semblant d'être un épervier pour effrayer les mauvaises mères qui ne s'occuperaient pas bien de ses enfants, quoi.
D'accord. On n'est pas si différents que ça, finalement.
Non.
Du coup, tu disais aussi qu'il y avait un risque qu'on puisse déranger les nichées.
Oui. Bah oui, chez les oiseaux, c'est le moment où ils sont le plus vulnérables, quand ils sont en train de couver. Donc déjà, ils sont fatigués, à l'affût des prédateurs, et surtout, nos activités, elles peuvent parfois les déranger, voire détruire complètement les couvées. Si on tombe sur un nid, il vaut mieux éviter de toucher les œufs, bien sûr. Mais il faut penser que l'oiseau s'est absenté, ou qu'il est juste à côté et qu'il nous voit. Enfin, en tout cas, il part jamais pour longtemps, et s'il est parti, c'est pour se nourrir, parce que il faut quand même qu'il se nourrisse pour continuer à vivre. Et du coup, en nous voyant aussi proche du nid, il peut abandonner sa couvée ou se fatiguer inutilement. Donc, il vaut mieux s'éloigner assez vite quand on voit des nids, quand on est trop près. Il y a certains oiseaux même qui vont nicher dans nos haies. Et malheureusement, au beau jour, c'est là que nous, on se dit qu'on va prendre le temps de les couper, de les tailler. Et là, on peut très vite détruire des couvées complètement. Donc les oiseaux, là, vont être obligés de partir ailleurs, essayer de faire une nouvelle couvée. Et vu que plus la saison, on l'a vu avant, avance, plus c'est difficile que la réussite se fasse et que les oisillons puissent être adultes,
on risque de mettre à mal... la reproduction de l'espèce. Et exactement. On peut penser aussi, avec l'arrivée des beaux jours, à nos amis les grimpeurs qui sortent en falaise parce qu'il fait beau, mais voilà, il y a aussi des espèces propres au milieu rupestre qui sont très sensibles au dérangement, donc Donc toujours se rappeler qu'on peut partager les falaises et pas grimper juste dans la voie où il y a un nid, mais peut-être sur celle d'à côté, ou de changer de site. Voilà, essayer d'avoir le réflexe de se dire que y a de la place pour tout le monde et qu'à un moment donné, on peut la laisser pendant quelques semaines.
Tout à fait.
Et prendre une photo pour garder le souvenir, mais éviter de le trifouiller sur tout le nid, quoi.
Voilà, exactement. Et que si on veut avoir le plaisir de voir encore des oiseaux chez soi, et ben de le laisser en place, effectivement, de l'observer avec des jumelles, on fait moins de dégâts. Merci beaucoup, Marion. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Cette fois-ci, on reste sur les oiseaux, mais on se spécialise un peu sur un groupe d'oiseaux vraiment emblématique, au bec crochu et aux pattes acérées. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.